Bonsoir. Prestation serment ce jeudi devant la Cour constitutionnelle des trois nouveaux membres du bureau de la CENI. Il s'agit du président, du vice-président et du questeur. Dans leur serment, ils ont pris l'engagement de respecter les lois de la République. Quels sont les défis qui attendent de ce bureau de la CENI? Nous en parlons avec Dieudonné Moinze, député national honoraire et cadre du PPRD. Il est aussi communicateur de la majorité présidentielle. Bonsoir, honorable Dieudonné Moinze.
Bonsoir, Guimaté.
Jean-Jacques Mamba, porte-parole du MLC, parti politique, membre de l'opposition. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques Mamba.
Bonsoir.
Et Jérôme Bonsoir, président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'Ilénite en sigle. Il est aussi coordonnateur de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées à état en sigle. Bonsoir, monsieur Jérôme Bonsoir.
Bonsoir, Jérémy Guimaté.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Prestation de serment ce jeudi à Kinshasa devant la Cour constitutionnelle des trois membres du bureau de la CENI. Il s'agit de Corneille Nanga, président, Norbert Basengezi, vice-président et Pierrette Moinze, questeur. Pour le nouveau président de la CENI, la priorité de son institution est l'évaluation sans complaisance du processus électoral ainsi que la consultation des parties prenantes avant de fixer les grandes orientations. Corneille Nanga est au micro de Michel Kifindangoy.
Il faut dire que nous avons une mission qui vient de nous être confiée et cette mission est déclinée dans les différentes lois de la République. Notre mission est donc de procéder aux activités préparatoires du processus électoral, donc de préparer les élections et de les organiser. Il est vrai que les attentes sont nombreuses. Il sera donc question pour la CENI de faire de procéder à une évaluation sans complaisance du processus. Après cette évaluation, nous mettrons l'accent sur les consultations des parties prenantes et de cela nous allons sortir des orientations qui seront dégagées pour la tenue des élections paisibles, transparentes et crédibles.
Quelles seraient donc les priorités de la CENI avec la récomposition de son équipe? Les points de vue sont partagés alors que l'opposition politique et quelques organisations de la société civile exigent la publication immédiate du calendrier électoral réaménagé. La majorité appelle plutôt la CENI à éviter de prendre des décisions précipitées et irréalistes. La communauté internationale, elle, pense que les priorités sont bien claires. Michel Kifindangoy.
Sans tarder, l'opposition politique plaide pour la publication d'un calendrier qui priorise les élections présidentielles et législatives. Délice Sanga, président de l'Envol.
Cette priorité doit s'exercer dans le respect des délais constitutionnels. L'autre priorité, c'est l'enrôlement des électeurs. Et de ce point de vue, nous sommes satisfaits du rapport qui a été fait par l'OIF.
Du côté majorité présidentielle, le gouverneur du Nord Kivu invite le peuple congolais à laisser à la CENI le temps de concevoir un plan réaliste. Julien Paloukou.
Ce n'est pas parce que les gens veulent qu'on organise les élections qu'on doit y aller dans la précipitation et demain faire l'objet de critiques. Les chances constitutionnelles à respecter est là, mais je crois que les Congolais ne doivent pas être figés sur des dates. Est-ce que faut-il qu'on détruise le pays parce que simplement il y a une date?
Pour sa part, l'ambassadeur de l'Union européenne estime que la publication du calendrier réaliste serait la première priorité. Jean-Michel Dumont.
Les priorités, je crois, sont très claires. Hein. La publication d'un calendrier le plus vite possible pour les élections présidentielles et les élections législatives. Ensuite, la question du budget.
Jean-Michel Dumont soutient qu'il y a encore du temps jusqu'en novembre 2016 pour préparer les élections présidentielles et législatives dans la transparence.
Merci Michel Kifindangoy. Dieudonné Moinze, je rappelle que vous êtes député national honoraire, cadre du PPRD et communicateur de la majorité présidentielle. Avec la prestation de serment de ces trois personnalités, la CENI affiche désormais complet. Qu'est-ce que cela vous inspire?
Monsieur Guimaté, je crois qu'il n'y a pas une autre inspiration que celle que je viens de suivre de la part de certains intervenants tout à l'heure. C'est que il est réel que nous avions depuis un temps une institution d'appui à la démocratie qui était amputée d'animateurs importants. Un président et un vice-président, ça il faut avouer, il s'agit des animateurs très importants et qu'aujourd'hui cette institution d'appui à la démocratie n'a plus de vacances à son sein. Donc c'est une bonne inspiration et nous croyons que les choses sérieuses vont commencer pour que nous puissions gagner du temps, certes, mais pas dans la précipitation. Voilà. Je crois que l'AMP est claire à ce sujet. Nous sommes d'accord pour les élections. Nous avons connu des tensions en 2006. Également en 2011, et nous croyons que cette fois-ci nous devons corriger. Nous voulons réellement avoir des élections apaisées, crédibles et qui minimisent le plus possible les violences post-électorales. Et nous nous inspirons beaucoup plus du rapport qui a été présenté par l'OIF dernièrement, le 12 novembre dernier. Et nous croyons qu'il y a à corriger au sujet du fichier électoral. Et nous croyons que la CENI est un organe, si pas une institution hautement technique, que s'il y a des problèmes politiques qui se posent, ça doit d'abord être corrigé par les politiciens ou les politiques, et avant de pouvoir inviter l'organe technique à pouvoir s'y employer.
Voilà, la majorité présidentielle met en garde contre des décisions précipitées et irréalistes. Qu'est-ce que vous appelez décisions précipitées et irréalistes lorsqu'on sait que la CENI n'a plus que 12 mois pour organiser les élections dans les délais constitutionnels?
Non, nous avons confiance en des animateurs de cette institution. Je crois que les mettre en garde, ça serait peut-être ne pas vouloir dire ce que nous ressentons exactement. Comme je disais, ce sont des personnalités responsables. Ils savent d'où nous venons, où nous sommes et où nous devons aller. Et ils doivent engager des efforts dans le sens de ne pas créer le chaos dans le pays.
Qu'est-ce donc, que vous appelez décision
précipitée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où nous parlons...
C'est la calendrier électoral comme le souhaite l'opposition.
Ça veut dire, comme je l'ai dit, vous savez, nous avons commencé par ce qu'on a appelé une tripartite, où nous nous sommes retrouvés autour de la CENI, opposition, majorité, et cette tripartite a montré ses limites. Nous nous sommes rendus compte que réellement cette tripartite ne pouvait pas résoudre le problème concernant le blocage du processus électoral et que cette fois-ci, nous croyons que faisant constat de ces limites de cette tripartite, il faut réellement aller à un dialogue. Le dialogue politique inclusif qui est initié par le chef de l'État qui va permettre à ce que nous puissions dégager un consensus politique et que ce consensus politique puisse nous permettre réellement d'aborder ces élections et de relancer le processus électoral. Je crois qu'il ne faudra pas que l'on pense beaucoup plus en termes de 12 mois. Quand on parle de 12 mois, on voit quelle élection? On voit les échéances électorales de 2016. Mais le calendrier...
On voit les délais constitutionnels.
Oui, non, je crois qu'il y a plusieurs délais constitutionnels dans la Constitution. Ça, j'ai la Constitution avec moi. Hein, je crois qu'il ne faut pas que l'on fasse une lecture biaisée de la Constitution. Il y a beaucoup de délais constitutionnels. Et d'ailleurs, je vous rappelle que depuis 2012, il y a eu un délai constitutionnel pour les sénateurs, pour les assemblées provinciales, un mandat de 5 ans. C'est aussi un délai constitutionnel.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Ça veut dire simplement que depuis un temps, nous sommes dans la violation des délais constitutionnels. Et les délais constitutionnels, il n'y a pas simplement...
Donc vous prenez acte de cela?
Oui, non, c'est le constat, c'est le constat. Il s'agit d'un constat que nous avons tous dégagé. Nous nous rendons compte qu'il y a des institutions qui sont en train de glisser, pour emprunter le terme de ceux qui veulent parler beaucoup plus de glissement, qui sont en dehors de mandat depuis 2012. Et aujourd'hui, nous voulons arrêter ça. Et pour arrêter ça, il faut un consensus, il faut se mettre d'accord. Et en dehors de ça, nous avons beaucoup d'impératifs. Le rapport de l'OIF nous dit beaucoup de choses. Il faut enrôler les nouveaux majeurs. Il faut fiabiliser le fichier, même si on dit qu'il est stabilisé, consolidé. Il faut enlever les doublons, plus de 450 000. Il faut enlever les décès. Et les décès, c'est plus de 1 600 000. Vous avez à peu près 7 millions de nouveaux majeurs actuels qu'il faut,
justement,
qu'il faut
justement,
enrôler.
Au sujet des rapports de l'OIF, ces rapports recommandent des données fiables pour crédibiliser les fichiers électoraux. Et cela suscite un débat dans la classe politique.
Oui, c'est ce que nous disons. C'est ce que nous disons que
par rapport à ces débats aussi.
C'est pour cela que nous demandons à la CENI de ne pas agir dans la précipitation. Puisque des questions qui se posent aujourd'hui et qui font le blocage du processus
électorale sont des questions éminemment politiques qui demandent que toutes les classes politiques, et je parle de l'opposition, les partenaires politiques, donc la classe politique congolaise, puissent se mettre autour d'une table sous l'initiative du chef de l'État, Joseph Kabila, que nous puissions nous parler, que nous puissions dégager un consensus politique qui nous permet d'avoir également un calendrier consensuel. Et c'est sur base de ce calendrier consensuel que nous allons pouvoir aborder les élections. Mais d'autres étapes, comme par exemple l'évaluation, suivant l'arrêt de la Cour constitutionnelle, l'évaluation sans complaisance et de manière indépendante du processus électoral, ça peut être fait sans problème par la CENI, puisque maintenant la CENI affiche complet. Donc nous croyons qu'il faut éviter la précipitation, il faut y aller de manière responsable pour éviter le débordement et le chaos au pays.
Merci Jean-Jacques Mamba, porte-parole du MLC, parti politique membre de l'opposition. Avec cette prestation des serments, peut-on dire que le processus électoral est de nouveau enclenché pour déboucher sur la tenue des élections en 2016?
Mais écoutez, avant d'aborder la question de fond, je suis quand même estomaqué d'entendre de la part de M. Mwenze, l'honorable Mwenze, débiter des incongruités. Vraiment, c'est une insulte.
Pourquoi vous appelez ça incongruité?
Parce que c'est une insulte. Vous savez, nous avons... Je vais vous le dire. Et vous allez me comprendre. Nous sommes dans une république, nous sommes un parti républicain, et nous avons dit que c'est la République démocratique du Congo. Dans une république, il y a ce qu'on appelle la responsabilité. Je vais vous citer des phrases de M. Mwenze. Il dit... On ne veut pas de précipitation. La tripartite a montré ses limites. Nous sommes dans la violation des délais constitutionnels. Qui est le responsable? Il ne faut pas que l'on s'adresse comme si à la population comme si c'était des situations ex nihilo. C'est-à-dire que la majorité présidentielle a organisé ce que moi je peux appeler le chaos, c'est-à-dire en refusant de financer la CENI, et d'ailleurs, si on doit parler de la CENI aujourd'hui, il faut quand même dire qu'elle a reçu plus ou moins, d'après le ministre Bharati, plus ou moins 100 millions de dollars sans qu'elle soit capable d'organiser les élections des gouverneurs. Même celle de M. Koyagialo, le feu Koyagialo qui est mort, ces élections-là n'ont pas été organisées, alors que lorsqu'on prend le 2013 aujourd'hui, d'après ce que le ministre Bharati a dit, cette CENI a reçu 100 millions. Donc ce que je veux dire, c'est ceci. Il ne faut pas, après avoir organisé un mur artificiel, après avoir organisé la faillite de l'État, se prévaloir de ses propres turpitudes et venir se présenter devant la population comme si il y a des choses qui dépassent notre entendement, alors que ce sont des choses que nous avons organisées. Pourquoi aujourd'hui, par exemple, nous sommes dans les délais constitutionnels dépassés pour les sénateurs? Rappelez-vous qu'en 2011, la majorité, comme avec un bâton magique, a décidé de passer de deux tours à un tour, alors que le deuxième tour coïncidait avec l'élection des députés provinciaux, lesquels allaient voter les sénateurs. Donc, le législateur, parce qu'à l'époque c'était la majorité présidentielle, a décidé de diminuer même la légitimité du chef de l'État en ne donnant pas l'occasion de dépasser les 50% pour avoir une majorité absolue, parce qu'en ce moment-là, on savait bien que le chef de l'État allait perdre les élections au deuxième tour. Donc, nous n'avons pas eu ces élections-là par le fait de la majorité, et la majorité vient aujourd'hui constater avec nous que nous avons dépassé les délais, mais ça, c'est une insulte au peuple. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est quoi? Nous, le MLC, nous disons, nous sommes dans une république. Lorsque des responsabilités sont établies, lorsqu'il y a des auteurs, ce que nous regrettons, d'ailleurs, c'est que ce gouvernement qui a organisé ce chaos n'a pas été sanctionné. Il y a eu Matata 1, il y a eu Matata 2, comme si de rien n'était. Un gouvernement à qui on a donné injonction par le Parlement de faire des provisions pour les élections depuis 2012 ne fait pas et vient tout bonnement devant l'Assemblée pour vous dire nous n'avons pas organisé les élections parce que nous n'avons pas de moyens.
Mais Jacques Mamba, à l'opposition, juste après la prestation de serment de ces trois personnalités, ces trois membres, ces trois nouveaux membres de la CENI, vous avez exigé la publication immédiate du calendrier réaménagé. Et vous venez de suivre l'honorable Dieudonné Mwenze, lui qui pense qu'il faut commencer d'abord par, en fait, lui, il propose un schéma, hein, il faut commencer par les dialogues à l'issue duquel il y aura un consensus politique, et c'est de ces consensus politiques qui va provenir, n'est-ce pas, les fameux calendriers électoraux.
Pour parler de la prestation de serment, le cadre idéal pour discuter des questions électorales, c'est bien la tripartite. De quelles limites parle-t-il? Il parle du fait que la CENI d'antan, on ne sait pas si ça sera le cas avec la CENI actuelle, était la caisse de résonance de la majorité. Nous avons présenté un mémo. Parce qu'aujourd'hui, monsieur parle d'un calendrier consensuel. Le mémo qui a été déposé à l'époque où monsieur Malmois était encore président de la CENI avait comme leitmotiv d'obtenir un calendrier consensuel. Ce mémo n'a jamais reçu de réponse. Donc aujourd'hui, ce que nous sommes en train de dire, oui, la loi prévoit que chaque entité ou chaque groupement dont le membre a quitté la CENI se fasse remplacer, ok, ça a été fait avec M. Mpungu et avec M. Malumalu, bien qu'il y ait un flou qui entoure ces différentes désignations, vous allez bien comprendre que l'Église catholique a émis des réserves. En dehors de ce flou-là qui est constaté, nous émettons des doutes. Pourquoi ? Parce qu'une CENI qui a reçu 100 millions, qui est incapable de nous sortir les listes définitives des députés provinciaux, comment voulez-vous, sans évaluation aucune, avec la précipitation qui a caractérisé leur désignation, que nous tendions vers un processus apaisé avec des personnes, des personnalités de ce type-là ? Moi, je ne connais pas M. Nanga, et les questions de la CENI doivent être étudiées de fond en comble pour savoir comment peut-on expliquer que la même CENI qui reçoit en deux ans...
Le dialogue que propose M. Mwanzi ?
Non, il n'y a pas de dialogue qui vaille les questions électorales. Les questions électorales, c'est la CENI qui va nous répondre. Il faut qu'on audite la CENI. Il faut que l'on sache si en deux ans, vous recevez 100 millions, comment vous pouvez vous retrouver à un certain moment dire que vous n'avez pas l'argent pour faire des élections à suffrage indirect, alors que la province qui a le plus de députés provinciaux, c'est la province de Litourie, là, il y a 30 députés. Mais les autres, on pouvait le faire avec un papier duplicateur. Rappelez-vous que pour passer un candidat gouverneur, ça coûte 2 500. Donc, c'est-à-dire que chaque parti a déboursé 2 500 $ pour la liste de gouverneurs. Avec 2 500 $, par exemple, à la Chopo, on peut organiser des élections de gouverneurs. Donc, ici, il y a un flou, parce que c'est une caisse de résonance de la majorité. Ils ont créé le chaos pour nous amener dans un dialogue dont personne ne veut. J'ai encore appris hier que l'UDP se refuse d'aller au dialogue. Pourquoi ? Parce que les questions qui doivent être traitées ont été déposées dans un mémo il y a plus de 6 mois, et malheureusement, la CENI n'a pas répondu.
Caisse des résonances de la majorité, comme vous le dites, mais vous demandez à cette caisse des résonances de publier immédiatement un calendrier électoral.
La mettons devant un fait accompli. Vous savez, lorsque nous avions sommé d'avoir un calendrier global, ils nous ont produit un calendrier indigeste. Maintenant que nous savons, et puis monsieur dit qu'il y a plusieurs délais constitutionnels, il n'y a qu'un seul délai constitutionnel assorti de contraintes par des verrous constitutionnels, ce sont les élections présidentielles législatives. Le scrutin du président de la République doit être c'est impératif 90 jours avant, vous le savez très bien. Les autres élections n'ont pas ce type de disposition, donc je crains fort que nous soyons ici dans une métaphore qui cache son nom, mais disons les choses telles qu'elles sont. Nous mettons cette nouvelle CENI devant un fait accompli. Pourquoi ? Parce que nous avons un verrou constitutionnel et ce verrou ne doit pas sauter.
Et vous estimez qu'en 12 mois, la CENI, si on lui donne tous les moyens dont elle a besoin, elle peut organiser ses élections en 12 mois ?
Une CENI auditée, avec l'appui de la communauté internationale, avec la logistique que la MONUSCO peut apporter, peut organiser les élections présidentielles et législatives en 12 mois. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? Il y a plusieurs autres élections qu'on va peut-être décalées, il faudrait qu'on les décale, parce qu'elles ne sont pas sorties, mais aussi leur non-organisation dépend étroitement de la responsabilité du gouvernement à ne pas les avoir organisées depuis plus de 10 ans. Prenons les élections au niveau territorial.
Pour poser les élections, apparemment, ce n'est pas le point de vue de la majorité présidentielle.
Mais c'est tout à fait normal, parce que la majorité présidentielle est élastique, elle cherche de l'élasticité, parce qu'elle n'est pas en mesure de défendre un bilan, et elle veut tripatouiller ce qui n'est pas tripatouillable, de telle sorte que nous allons dans un glissement, et ça, nous le refusons.
Merci, Jérôme Bonceau, président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'INELIT en sigle, et aussi coordonnateur de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées, AETA en sigle. Votre analyse par rapport à cette récomposition de la CENI.
Merci, cher ami Kimaté. Je tiens à saluer Jean-Jacques Mamba et honorable Dieudonné Mwenze, mes co-débatteurs. Pour répondre à votre question, nous devons avoir en tête que le compatriote qui vient de prêter serment aujourd'hui devant la Cour constitutionnelle, c'est le produit d'un tsunami électoral qui a secoué les membres du bureau de la CENI, qui a secoué les membres de l'Assemblée plénière de la CENI, et peut-être qu'il risquerait aussi de secouer, et ça aura comme impact, c'est relancer encore le problème, la crise de confiance et le déficit de crédibilité dans le chef de l'institution Commission électorale nationale indépendante, dans le chef des animateurs, et pourquoi pas dans le chef du procès électoral. Mais aujourd'hui, ils sont là, ils vont relancer quel défi ? Le premier défi, c'est le défi de confiance. La confiance se mérite par les actes que les animateurs sont en train de poser, défi de crédibilité pour que le procès électoral puisse être accepté par tout le monde. Et aujourd'hui, ils se trouvent devant sans outils. Ils n'ont plus un outil de gestion, de planification, d'évaluation et de suivi des opérations électorales. Par outil, nous attendons le calendrier électoral global qui a été publié en date du 14 février 2015. Ce calendrier était précédé par des tentatives de planification et des opérations des élections. Ils ont fait à la feuille de route qui a été présentée pour organiser les élections, le calendrier électoral partiel qui concernait seulement les élections locales, municipales et urbaines, et le calendrier électoral global. Et toutes ces trois tentatives ont échoué. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu déficit de planification. La CENI a planifié les opérations électorales en intégrant les facteurs temps et moyens financiers dont il ne disposait pas. Aujourd'hui, le cycle électoral 2011-2016 souffre maintenant de facteurs temps. Est-ce que le défi que la CENI va relancer aujourd'hui, est-ce que la CENI va récupérer le temps qui est déjà passé ? Est-ce que la CENI va lui être demandé de replanifier les opérations électorales ? Est-ce que la CENI a le moyen ? Parce que quand on planifie, on doit mettre le temps et le moyen. La CENI n'a pas le moyen à l'heure qu'il est, parce qu'il n'a plus son outil de gestion qui est le calendrier électoral qui est bloqué. Donc la CENI n'a plus sa boussole électorale. La nouvelle équipe est en train de croiser les bras. Il faut attendre à ce qu'il y ait une nouvelle boussole électorale pour que les opérations puissent démarrer.
Et donc vous pensez qu'il faut commencer par là ? Il faut commencer par publier les nouveaux calendriers électoraux comme le propose, le souhaite l'opposition.
La publication du calendrier électoral est liée de deux facteurs, je viens de le dire, facteurs temps et moyen. Est-ce que le temps, la CENI a déjà le temps pour faire les élections dans le délai constitutionnel ? Est-ce que la CENI a déjà le moyen disponible ? Parce qu'on doit faire face pour le calendrier électoral, on doit tenir compte de la problématique du fichier électoral, on doit tenir compte de l'enrôlement des Congolais de nouveaux majeurs, on doit tenir compte de l'enrôlement des Congolais de la diaspora. Tout ça entre en danse, mais avec le fichier électoral, comment nous allons nous en sortir ? Parce que ce fichier est qualifié des uns et des autres, un fichier électoral corrompu, inadapté, et a autant de faiblesses du point de vue organisationnel, comment est-ce que nous allons nous en sortir ?
Alors, justement, le sujet de ce fichier électoral, il y a les rapports de l'OIF qui a été relevé par l'honorable Dino Lemoinze, et ces rapports recommandent des données fiables pour crédibiliser justement ces fichiers électoraux. Et à cet effet, il recommande l'organisation notamment d'un recensement.
Mais ça rejoint aussi l'étude que nous au niveau de la LINELIT, nous avons produit en date du 16 février, nous avons produit une étude comparative par rapport à l'audit du fichier électoral par l'OIF et notre étude. Il y a des points de convergence et de divergence et il y a des faiblesses et des forces. C'est là que nous avons dit, est-ce qu'aujourd'hui nous allons introduire dans le fichier électoral les nouveaux majeurs dans un fichier présumé corrompu, dans un fichier inadapté, dans un fichier ne contenant pas toutes les données démocratiques. Comme je dis, ça va nous produire quel genre de liste électorale ? Parce que c'est par les listes électorales qu'on parvient à enregistrer autant de cas de fraude électorale. Que faire ? Et c'est ça la capacité de l'homme politique. C'est ça la capacité de la majorité de l'opposition au pouvoir. De se dire, quelle option politique courageuse allons-nous lever pour organiser les élections dans le délai constitutionnel ? Parce que c'est là où nous demandons aussi à la CENI de lever la voix pour dire, pour répondre à nos compatriotes qui sont dans leur droit pour dire, il faut trouver une solution par la tripartite, opposition, majorité et la CENI, dont la société civile est exclue, ou d'autres compatriotes sont exclus dans cette tripartite, comment est-ce qu'on peut parvenir à élaborer un calendrier électoral consensuel qui ne pouvait pas être contesté ? Donc l'élaboration du calendrier électoral consensuel doit tenir compte des avis des uns et de toutes les parties prenantes au processus électoral. Par partie prenante au processus électoral, il n'y a pas seulement majorité, il n'y a pas seulement opposition, il y a aussi les organisations de la société civile, il y a aussi les partenaires techniques et financiers, il y a aussi d'autres personnalités qui s'intéressent à ce processus. Et c'est pourquoi nous disons, comment nous allons faire face au financement du processus électoral ? Comment nous devons disponibiliser la CENI, le moyen pour que la CENI, une fois installée, on continue à faire. Mais maintenant la CENI est là, le nouveau animateur produit de tsunami électoral sont là, mais ils croisent le bras, ils ne font rien faire. Pendant que nous sommes en train de discuter, pendant que la solution urgente n'est pas encore trouvée, nous allons nous trouver encore devant un retard, parce que ce processus accuse déjà un retard de plus d'une année. Et si nous faisons encore, comment nous allons parvenir à organiser les élections dans le délai constitutionnel ? Nous devons nous investir, parce qu'il ne suffit pas de dire nous organisons les élections dans le délai constitutionnel, nous les avons organisées en 2011, nous connaissons les résultats, mais en 2016, est-ce que nous pouvons nous en sortir ? C'est à la classe politique de lever l'option pour que nous puissions trouver une solution apaisée.
Et comment vous analysez les schémas proposés par Dieudonné Moinze, qui pense qu'il faut commencer d'abord par les dialogues, et à l'issue duquel il y aurait un consensus politique, et c'est de ces consensus-là qu'on pourra, n'est-ce pas, obtenir un calendrier consensuel.
Parce que nous voulons un calendrier consensuel. Par quel mécanisme nous devons dégager ce genre de consensus, je le répète. Par quel mécanisme? Si nous devons aller à la CENI, c'est pourquoi nous avons dit que la CENI pousse de dire tout haut, urbi orbi, pour dire je suis à mesure d'entraîner, de continuer avec la tripartite, opposition majorité, on peut s'en sortir. Si tel n'est pas le cas, si la CENI va se trouver dans l'incapacité de trouver une solution à cette question primordiale de l'organisation des élections dans le délai constitutionnel, nous pensons que les uns et les autres doivent se trouver autour d'une table pour dégager un consensus là-dessus afin d'avoir un processus électoral consolidé, un processus électoral consensuel. Merci. Et apaisé.
Merci, honorable Yedoné Moïse. Il y a une question, une réflexion qui vient de New York aux États-Unis qui vous est adressée.
Yedoné Moïse, là, depuis New York aux États-Unis, il n'y a rien qui va changer. C'est juste un simple remplacement. Déjà, quand il y a eu les démissions du président et du vice-président de la CENI, c'est la preuve suffisante que les démissionnaires ont intelligemment fui la violation de la loi électorale qui peut plonger tous les pays dans l'impasse. Aussi longtemps que le gouvernement de Kinshasa évoquera la problématique du financement des prochaines élections présidentielles et législatives, sera là les grands défis à relever. Parce qu'on peut bien établir les calendriers électoraux, mais tant qu'il n'y aura pas les moyens financiers, la tenue des élections sera retardée toujours.
Oui, honorable Zidane Monzé.
Merci, M. Guématé. Je crois qu'il y a d'abord des précisions à donner par rapport à l'intervention tout à l'heure de M. DMLC. Je n'ai pas refusé que...
Mamba.
Oui, M. Mamba du MLC. Mamba plutôt du MLC. Je n'ai pas dit que le délai par rapport à l'élection du président de la République n'était pas constitutionnel, mais j'ai simplement dit qu'il n'y avait pas simplement ça comme délai constitutionnel. Puisque quand vous parcourez la Constitution du début jusqu'à la fin, moi, je ne voudrais pas que les gens fassent une lecture biaisée de la Constitution et même partisane, simplement puisqu'ils veulent répondre à leurs attentes. Et là, les allégations de M. du MLC ne semblent pas me convaincre. Dans ce sens que quand vous lisez l'article 103 et même 105 de la Constitution qui parle des mandats des députés et des sénateurs, il y a là-bas un délai constitutionnel. On vous dit que le mandat doit être renouvelé à l'issue des 5 ans. Il s'agit aussi d'un délai constitutionnel et ce délai n'a pas été respecté. Je vais répondre à la question de savoir pourquoi ça n'a pas été...
De qui,
oui, je vais répondre à la question de savoir pourquoi ça n'a pas été respecté. Mais je voudrais également dire, je vais répondre à cette question, mais je voudrais également dire que nous avons une divergence de point de vue par rapport à l'organisation des élections dans ce pays. Et depuis 2006, nous n'organisons que les élections au niveau du sommet de la République, mais nous croyons que pendant ce temps, nous ne devons pas persister dans cette erreur et qu'il nous faut corriger pour organiser les élections au niveau de la base. Et là, c'est une divergence, ça appelle nécessairement qu'on se retrouve et qu'on se parle. Et quand nous parlons du dialogue, le MLC ne semble pas parler du dialogue, mais le MLC a été aux concertations nationales en 2013. Qu'est-ce qui a attiré le MLC aux concertations nationales en 2013 et qui ne peut plus les attirer aujourd'hui pour venir au dialogue en 2015? Je crois que... la tripartite ne suffit pas, nous l'avons dit, puisque nous précisons bien que la CENI n'est qu'une institution d'appui à la démocratie, conformément à l'article 211 de la Constitution. La CENI elle-même ne fait pas la démocratie. C'est pour cela que le titre est clair. Il s'agit d'une institution, d'une des institutions d'appui à la démocratie. Donc la CENI ne vient qu'appuyer la démocratie. D'ailleurs, sous d'autres cieux, vous le savez, c'est simplement puisque ici, dans la République démocratique du Congo, nous venions d'une période post-conflit et qu'à un certain moment, on ne se faisait pas mutuellement confiance, qu'on a responsabilisé une institution comme la CENI pour organiser les élections. Ailleurs, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Je vais répondre à la préoccupation, je termine avec l'allégation tout à l'heure de M. DMLC. Je crois qu'on est dans la République.
Monsieur Mamba.
Oui, Monsieur Mamba. On est dans la République, on ne peut pas oublier les vérités dans la gestion de cette République. Je sais qu'il est dans l'opposition, il se limite à critiquer, mais nous, on ne critique pas, nous, on gère. Au niveau de la majorité, on gère et on connaît les réalités du pays. Et quand on est de bonne foi, on doit connaître les réalités. Est-ce qu'il ne sait pas, s'il vous plaît, j'arrive au financement. Est-ce qu'il ne sait pas que quand le gouvernement Matata prenait les fonctions en 2012, directement quelques mois après, le gouvernement Matata a dû faire face à une guerre contre le M23 à l'Est. Et quand vous savez que quand on veut gérer une guerre, s'il faut gérer ou affronter une guerre, résoudre la question des guerres, il y faut avoir des moyens. C'est pour cela que le gouvernement n'a pas eu assez de moyens. Mais il sait également que notre budget de la République n'a pas la taille qu'il
qu'il faut pour pouvoir financer convenablement les élections.
Pourquoi?
Nous les avons. Non, il y a un problème réel. Nous avions il y a 10 ans, 20 ans, même 20 ans, il y avait des budgets qui étaient à moins d'un milliard. Aujourd'hui, nous avons quand même un budget qui est au-delà de 7 milliards.
Les financements des élections, un des défis majeurs par rapport à la CENI.
Je vais répondre à la question de M. Gaylord de USA. Je crois qu'il doit espérer dans la République. Hein. Il ne doit pas avoir un comportement pessimiste puisque le pays se gère et peut-être qu'il ne connaît pas les réalités de ce pays en étant à plusieurs kilomètres par rapport à notre pays, mais il se rendra compte que le pays est en train d'évoluer. Le Congo n'est peut-être pas ce Congo qu'il avait
laissé. Le gouvernement est disposé à financer les élections.
Le gouvernement est disposé.
On a reproché au gouvernement de n'avoir pas décaissé les fonds qui étaient alloués à la CENI par les parlements.
Non, je crois que ça, c'est parmi les recommandations de la Cour constitutionnelle. On demande réellement au gouvernement de pouvoir financer les élections. Et là, le gouvernement doit faire un effort réellement pour financer les élections. Mais nous disons simplement qu'avant qu'on y arrive au financement des élections, il faut que l'on puisse d'abord résoudre les problèmes techniques qui se posent à la CENI et que l'on puisse dégager un consensus commun, un consensus pour toutes les parties, afin de pouvoir organiser les élections.
Monsieur Jean-Jacques Mamba, il y a une réflexion aussi qui est faite. Elle vient de Bukavu. Pour vous.
Robert Bamé de Bukavu, au sud de Kivu. Il est vrai que beaucoup sont encore des défis à être relevés par le bureau de la CENI pour qu'il réussisse réellement les missions lui dévolues par la Constitution. Cependant, je ne pense pas que ceci soit possible tant que ce bureau restera toujours inféodé à la majorité ou éventuellement à l'opposition. Autant dire que, loin des manipulations des acteurs politiques, la CENI pourra être bien disposée à satisfaire aux desiderata aux exigences de la population congolaise sur le plan électoral.
Oui, les interférences politiques de la part et de l'opposition et de la majorité à la nouvelle CENI.
Bon,
s'il n'y a pas ce genre d'interférences, la CENI pourrait bien faire tout son travail.
Je regarde le chrono, donc je vais essayer d'être très rapide parce que bon, je ne peux pas laisser l'honorable Moïse continuer à dévoyer. Je vais prendre quatre choses et je vais répondre directement à notre camarade du Bukavu. Monsieur parle d'organiser les élections au niveau de la base. Vous savez que les élections au niveau de la base dépendent étroitement de l'organisation de l'administration publique. Nous avons un État défaillant qui a montré ses limites même dans la capitale. Donc aujourd'hui, nous ne pensons pas que cet État qui était dans les cinq chantiers, après qu'il est passé dans la révolution de la modernité, a la capacité de gérer des élections au niveau local. C'est un État déficitaire. Deuxième chose.
S'il faut attendre que cette condition soit réunie...
C'est pour cela que nous voulons des élections. Locales. Nous voulons des élections à tout prix parce que nous voulons de l'alternance. Dans ce pays, il y a mieux. Le mieux, ce n'est pas forcément l'opposition. Le mieux, ce sont d'autres idées qui peuvent être dites dans la majorité, ce sont de nouvelles énergies. Après 15 ans au pouvoir, à un certain moment, on atteint ses limites. Donc nous, le MSC, nous disons, il faut que nous ayons une alternance et des élections en 2016 parce que notre État a accusé des limites. Donc, qu'on ne peut même plus surmonter avec 1% de taux d'électrification sur l'ensemble du territoire national. Moi, le courant chez moi ne revient qu'à 19h, tous les jours. Alors, je vais continuer. Il parle de qu'est-ce qui a attiré le MSO aux concertations nationales. Mais nous avions une feuille de route qui était claire. Dans cette feuille de route, nous avions l'espoir à l'époque, en croyant la bonne foi de la majorité, que si en 2013, nous pouvons déjà planir toutes nos divergences, nous aurions des élections apaisées qui seront tenues dans les délais constitutionnels. Le chef de l'État est passé devant les chambres pour dire qu'il s'engageait personnellement à veiller à l'application des concertations, alors que le taux, au jour d'aujourd'hui, n'est même pas de 2%. Sur les 100 premières recommandations des concertations nationales. Je vais continuer très rapidement. Il dit, M. Matata fait face à la guerre. Oh, ça, c'est l'excuse facile. C'est pendant qu'on a la guerre qu'on achète des avions d'occasion. Enfin, il y a eu la guerre. Bon, bref, ça continue à bénir parce que la guerre ne s'est jamais arrêtée depuis 10 ans. On achète des avions d'occasion, on construit des immeubles intelligents, mais on n'a pas 2 millions pour faire des élections. C'est toujours pendant la même période. Je vais terminer. Il dit, par la taille de son budget, mais si nous avons un budget qui est médiocre, parce que nous n'avons pas aujourd'hui une émission sur le budget, c'est parce que nous avons un manque de vision politique. Un pays ne peut pas étroitement dépendre des exportations de cuivre et un premier ministre qui arrive à l'Assemblée pour dire « Écoutez, comme le cours du cuivre a baissé, notre budget baisse. » Il y a plusieurs services qui peuvent générer des taxes et impôts qui peuvent alimenter le budget. Et puis nous avons un budget qui est sous-évalué. C'est politiquement que cela est fait parce qu'il y a des niches fiscales qui ne servent qu'à enrichir certaines personnalités. Maintenant, je vais répondre à mon ami de Bukavu parce qu'apparemment, c'est très... Nous avons, dans certains pays, la plupart des pays développés, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Et ça, c'est la situation idéale. Parce que dans plusieurs pays, la loi est au-dessus de tout le monde et que, quelle que soit votre obédience politique, dès l'instant que vous enfreignez les lois, vous êtes sanctionnable. Nous sommes dans un état où les portes étaient ouvertes de la prison et il n'y a eu que des prisonniers d'opinion qui y sont allés. Il y a de l'impunité et personne ne fait confiance en personne parce que l'État n'a même pas confiance en sa propre justice. Aujourd'hui, vous pouvez aller vous plaindre, même à la police, parce que vous manquez, vous allez à la police, vous vous plaignez que quelqu'un vous doit de l'argent. Le jour qu'on vous paye, la police va prendre un pourcentage.
C'est pour vous expliquer,
nous sommes dans un État où les personnes n'ont confiance en personne. Et surtout, le concitoyen n'a pas confiance en sa propre justice, il n'a confiance en personne. Donc, c'est tout à fait normal.
La mise en place de la CENI.
Et c'est une solution qui est panafricaine, parce qu'on a remarqué que dans les États en déliquescence comme celui de la République démocratique du Congo, qu'il faille un compromis pour avoir un organe dit indépendant techniquement, mais dépendant des personnes qui les mandatent, parce que nous, MSC, nous avons aussi mandaté des gens à la CENI.
Solution idoine, mais elle semble ne pas fonctionner.
Ce n'est pas la meilleure des solutions. Ce n'est pas la meilleure des solutions.
Parce qu'il y a des interférences et de la part de l'opposition et de la part de la majorité.
Malheureusement, c'est la classe politique qui l'a décidé ainsi, et malheureusement, ça ne devrait pas continuer. Nous espérons, quand il y aura alternance, que le ministère de l'Intérieur organise les élections, et de la manière la plus neutre que ce soit.
Alors, à votre avis, comment la CENI peut relever ces défis? Comment elle peut relever les défis des interférences politiques?
Mais Monsieur Bontz vient de vous dire ici qu'il y a une crise de confiance. Moi, personnellement, je ne connais pas Monsieur Nanga, et nous, le MLC, nous n'avons pas, bien que ce n'est pas notre responsabilité de choisir le président de la CENI, mais je pense que l'Église catholique, qui est un acteur prépondérant, a émis des réserves. Ça veut dire que, comme il y a une crise de confiance, il faudrait qu'on rassure les uns et les autres, et je pense que jusqu'à preuve du contraire, la CENI a reçu tous les pouvoirs du Parlement, il y a une loi organique, elle a la capacité, elle a les outils pour régler ses problèmes électoraux, et le gouvernement a la responsabilité de donner simplement l'argent. Le gouvernement n'est pas là, le président de la République n'est pas là pour nous expliquer comment est-ce qu'on va enrôler les niveaux majeurs, ainsi de suite. C'est une compétence technique qui revient à la CENI, et nous voulons aller dans le cadre de la tripartite pour résoudre ces problèmes.
Merci Jérôme Bosso. Il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Goma au Nord Kivu.
Thierry Matadiro depuis Goma, Nord Kivu. Le nouveau comité de la CENI va rencontrer autant de défis sur sa table, entre autres, les défis liés à son adaptation par rapport aux enjeux politiques de l'ère, les problèmes du réaménagement du calendrier électoral qui devra respecter les délais constitutionnels, le financement des élections, les cas de nouveaux majeurs, les élections présidentielles de 2016 qui suscitent la curiosité de tous les Congolais et de tous les étrangers et d'autres questions liées à l'organisation des futures élections en RDC.
Oui, Monsieur Jérôme Bonso.
Oui, cher ami, vous avez pleinement raison. La CENI se trouve devant tout un tas de défis à relever. Mais nous pensons que si on laisse tous ces défis à la compétence de la CENI, nous n'allons pas nous en sortir. Parce qu'il y a certains défis qui dépassent même des défis, par exemple, de mobilisation de moyens financiers. Ça ne relève pas de la compétence de la CENI. Quand il y a une question, par exemple, de la sécurisation du procès électoral, ça ne relève pas de la compétence de la CENI. Il y a autant de défis que la CENI doit faire face. Du moins, nous avons parlé, par exemple, de la crise de confiance. C'est dans le comportement de la CENI, dans les actes que la CENI va poser, et que ça va contribuer à reconstruire la confiance dans le chef des animateurs de la CENI. Nous avons un problème important, le problème du fichier électoral. Le défi là, comment la CENI va se comporter? Soit on parle avec un fichier électoral corrompu, un fichier électoral inadapté pour intégrer le nouveau majeur et la diaspora, soit on lève l'option d'un fichier électoral nouveau. À ce moment-là, l'option serait de lever, pas par la CENI, mais plutôt par la classe politique.
Alors, quand vous insistez sur les comportements que doit afficher la CENI, sur les actes que la CENI doit poser, vous ne pensez pas que les actes de la CENI sont fonction aussi du comportement des pouvoirs publics? Parce qu'en fait, c'est le pouvoir public qui doit donner les fonds, le pouvoir public qui doit, n'est-ce pas, permettre à cette CENI de pouvoir fonctionner librement.
C'est là que nous avons dit que la CENI doit replanifier les opérations électorales. Il doit maintenant, avant de faire le calendrier, la CENI doit poser la question aux uns aux autres. Est-ce que vous, gouvernement, vous partenaires techniques et financiers de la communauté internationale, est-ce que vous avez déjà disponibilisé l'argent pour que je puisse donner les indications, les dates claires à l'organisation des élections? À suivre le débat aujourd'hui sur ce plateau de la radio au CAPI, le poste électoral, nos amis de la majorité, de l'opposition, mon frère Jean-Jacques, il dit, nous voulons les élections à tout prix. Mon honorable de la majorité, nous voulons les élections à temps réaliste. Mais comment nous pouvons trouver une solution médiane pour
c'est
arriver
quoi, c'est
aux élections.
La solution, selon vous, c'est quoi la solution?
Mais la solution deviendra de la classe politique, du consensus que la classe politique va dégager. Parce qu'aujourd'hui...
À travers quel cadre?
Mais, le cadre peut être appelé dialogue, peut être concertation, peut être tripartite, et qu'on trouve une solution. La capacité des êtres humains, cher ami Guimaté, c'est de trouver, de faire face aux problèmes. Pas poser de problèmes, mais être capable de résoudre le problème. Mais avoir l'entente, le débat entre l'opposition et la majorité, nous avons l'impression qu'on n'a pas la volonté de résoudre ce problème. On voulait nous faire traîner encore. Mais tout en oubliant le temps court. Le temps court, mes chers amis, chers frères, chers compatriotes, opposition majorité, nous sommes au mois de novembre, Déceni ne va rien faire d'ici novembre-décembre, ne fera absolument rien, parce qu'il n'a plus le calendrier à main, il n'a plus son outil de gestion, il faut attendre quand? Donc le plus tôt serait le mieux, si on veut relancer le processus électoral qui est dans l'impasse, qui est au bord de la dérive, nous avons tout intérêt.
Que répondez-vous à M. Jean-Jacques Mamba, qui estime que la CENI a tous les atouts pour sauver ce processus électoral?
Oui, la CENI n'a pas les atouts politiques. La CENI a les atouts techniques. C'est là où nous disons aussi comme conseil à la CENI de ne pas s'inviter au débat politique. Laisser les débats politiques aux politiques. Et la CENI doit s'investir au débat technique pour faire voir et à la majorité et à l'opposition voilà ce qu'il faut faire du point de vue technique pour qu'on puisse en sortir. Et c'est de là où la CENI aussi doit le dire. Nous le répétons. Si elle est capable de continuer avec la tripartite pour trouver une solution, afin de résoudre les élections dans le délai constitutionnel, nous devons accepter. Mais si la CENI garde le silence, ça, il va encourager le débat politique qui n'ont pas d'issue. Et c'est pourquoi nous disons, nous avons tout intérêt à arrêter le débat et voir qu'est-ce qui est faisable si nous voulons aller aux élections dans le délai constitutionnel.
Oui, nous allons commencer avec la conclusion. Donc, au-delà de la bonne volonté que pourrait avoir la CENI, et tout serait lié à la volonté, à une certaine volonté politique.
La volonté politique est primordial et nécessaire. Parce que c'est de cette volonté politique que les options vont aider la CENI à élaborer, à replanifier son calendrier électoral.
Alors, dès lors que sur le plan politique, il y a des divergences de vues, dès lors qu'il n'y a pas de consensus, alors qu'est-ce qu'il faut faire finalement?
Mais on est foutu, on est pour un lendemain incertain. Et à ce moment-là, on ne sera pas en mesure de prétendre organiser les élections, que ce soit la CENI, que ce soit le gouvernement, que ce soit les partis techniques et financiers. Personne de cette semaine ne va pas chanter le dialogue pour l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Nous devons être réalistes.
Honorable Guido Lemoyne, la CENI aurait tous les atouts pour sauver les processus électoraux, selon Jacques Mamba.
Non, c'est négatif. La CENI n'a que les atouts techniques, puisque en tant qu'organe technique, la CENI ne peut gérer, ne peut détenir que les atouts techniques pour pouvoir organiser les élections. Les atouts politiques sont éminemment politiques et concernent les politiques. Je voudrais aussi dire que nous réaffirmons notre volonté à la majorité de ne pas continuer avec la tripartite, puisqu'elle a montré ses limites. La tripartite nous a induit même en erreur. Vous savez, l'opposition, beaucoup de partis de l'opposition, y compris le MLC, qui ne sont pas prêts à pouvoir affronter les élections, sont venus induire aussi la CENI en erreur en surchargeant le calendrier, puisqu'au départ on avait un calendrier qui était dit partiel, mais finalement on a parlé d'un calendrier global, mais qui a simplement surchargé le calendrier.
Voilà,
qui n'a pas permis à ce que nous puissions avoir des élections.
Vous allez devoir conclure.
Oui,
pour sauver le processus électoral.
Non,
je
crois qu'il faut, actuellement se parler. Il faut se parler et aujourd'hui, nous avons l'initiative du chef de l'État qui nous propose le dialogue et il faut nécessairement aller au dialogue. Et quand on parle de l'alternance, il ne faut pas que l'on comprenne que l'alternance, c'est simplement les élections présidentielles. L'alternance peut se faire à beaucoup de niveaux. Il y a l'opposition en 2006 qui avait géré une des provinces, vous savez bien, je cite bien l'Équateur, mais nous connaissons les capacités de l'opposition à pouvoir gérer. Donc l'opposition ne doit pas donner des leçons à la majorité.
Merci.
Je crois que pendant ce temps, nous devons tous nous engager à pouvoir nous parler et
Merci.
Dégager un consensus.
Monsieur Jean-Jacques Mamba, ça reste votre conclusion. La CENI n'a pas d'atout politique.
Écoutez,
l'honorable
a réussi à m'arracher un sourire. Donc ça veut dire qu'on va épiloguer sur quelque chose de bien. Donc au fait,
concrètement pour sauver ce processus.
Non, écoutez, on dit que la CENI a les capacités techniques mais non politiques. Pour moi, c'est une aberration de le dire. Parce que lorsqu'on parle des capacités politiques et on veut dire par là les capacités financières, c'est comme si l'argent de la République appartenait à un camp. Nous avons un budget, il paraît qu'il y a 500 millions pour organiser les élections, mais il y a une indication budgétaire qui prouve à la CENI qu'il y a possibilité d'organiser ces élections. Il faut que la CENI se mette au travail et si possible, la semaine prochaine, nous présenter un calendrier aménagé.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Paul Badianyama qui était à la technique. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Kéline Kouté, Berry, Franklin Louchaka sous la supervision de Julien Nyamouni. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon studio programme sur Radio Capi.